Vous écoutez, on lit pour vous.
L'hôpital des Nounours, un texte de Rose-Aimée Autonneté Morin, paru le 1er avril 2026 dans la presse. L'anesthésie a fait effet. Le patient est profondément endormi. On désinfecte son ventre, on fait une incision d'une main sûre, puis on retire un organe brunâtre de ses entrailles. Un caca, demande Emilio? Non, une PlayStation. Croit plutôt Nico. En fait, c'est un foie, explique Lumata aux enfants de 5 ans réunis autour de l'ourson sur lequel il pratique une intervention chirurgicale. Un foie, ça garde l'énergie du corps et ça nettoie le sang, ajoute l'étudiante en médecine. J'observe la scène en riant. Difficile de rester de marbre devant des enfants déguisés en chirurgiens, surtout quand ils croient qu'une console de jeux vidéo peut coexister avec nos intestins. Ce matin, à l'école Alphonse Desjardins, 6 classes de maternelle découvrent l'hôpital des Nounours. Si je vous en parle, c'est parce que l'initiative est importante, mais surtout parce que s'il y a une chose dont on a besoin ces temps-ci, c'est bien de photos d'enfants qui soignent leur toutou préféré. L'hôpital des Nounours a été lancé par la Fédération internationale des associations étudiantes en médecine, il y a plus de 25 ans. Depuis, le projet a fait des petits partout dans le monde. Au Québec, plusieurs établissements ont leur département toutou, dont l'Université de Montréal. L'objectif est simple, en permettant à de jeunes élèves de soigner leur peluche dans un contexte médical, on souhaite diminuer le syndrome de la blouse blanche. Un syndrome qui peut nous affecter, qu'importe notre âge. C'est stressant, une consultation médicale. À un tel point que notre tension artérielle peut augmenter à la simple vue d'un sarrau. À l'hôpital des Toutous, on prend 90 minutes pour montrer aux enfants qu'ils n'ont pourtant rien à craindre. On leur explique à quoi servent les instruments qu'ils croiseront à la clinique et par la bande, on leur permet d'explorer des possibles. On fait naître des patients. Andrea Haddad, 21 ans, et Madeleine Desjardins, 19 ans, toutes deux étudiantes en médecine et responsables des partenariats de l'hôpital des Nounours de l'Université de Montréal, m'expliquent qu'au cours d'une année scolaire, l'équipe visite près d'une dizaine d'écoles. En général, les élèves ont l'occasion de tester 6 stations. Chirurgie, imagerie médicale, rendez-vous chez le médecin, réadaptation et activité physique, allergie et prise de sang, puis habitude de vie et dentiste. Aujourd'hui, c'est fait parce que les paramédicaux sont de la partie. On met de côté les 2 dernières stations pour que les petits puissent embarquer sur une civière, utiliser un saturomètre sur eux-mêmes comme sur leur peluche et lancer les gyrophares d'une ambulance. La chance! Chaque atelier est animé par 2 bénévoles. Ce matin, il n'y a que des femmes et toutes étudiantes en santé, que ce soit en médecine, en biochimie ou en biologie moléculaire. L'une d'elles, Sabrina Nantel, croit que les enfants sont moins gênés de poser des questions quand c'est le corps médical qui se rend à eux. À l'école, ils sont habitués d'être curieux, alors le contexte est bon pour apprivoiser des soins autrement plus inquiétants. En plus, ils sont avec leur toutou. C'est ça, c'est pas rassurant. Puisque les ateliers sont surtout offerts dans des quartiers défavorisés, les bénévoles arrivent d'ailleurs avec des peluches en renfort. Les élèves, sans jouets, peuvent repartir avec celui qui leur a été confié, grâce à des partenaires comme Univers Toutou et IKEA. Partout dans le gymnase, les apprentis médecins interviennent auprès de leurs patients. Dans la section du rendez-vous médical, les élèves enfilent un mini-sarrau, prennent la température de leur peluche, auscultent son oreille et testent ses réflexes à l'aide d'un petit marteau. Juste à côté, dans le coin de la réadaptation et de l'activité physique, les petits sautent sur place avant de toucher leur cœur pour constater la vitesse de ses battements. Puis, il se lance dans une série de push-ups. Galvanisé, Emilio envoie son toutou haut dans les airs. La tortue atterrit sur la tête d'un bénévole qui semble en avoir vu d'autres. En imagerie médicale, un ourson nommé Bob passe une IRM pendant que les élèves prennent des radiographies de leur peluche. Oh, oh, elles ont toutes une fracture. Vite, on doit intervenir. Alicia Sophia s'approche de Meredith Lacasse, qui entamera sous peu une maîtrise en radio-oncologie. L'étudiante pose un bandage sur la patte du renard de la petite. Alicia Sophia s'en trouve si soulagée qu'elle se jette dans les bras de la bénévole. À l'autre bout de la pièce, un garçon si fier de ce qu'il vient d'apprendre s'élance pour sa part vers son collègue Alain, question de prendre sa température. Tout est correct. Phew. On sort faire un tour dans l'ambulance. Mon cœur fond pour la 15e fois en très peu de temps quand j'aperçois une fillette entrer dans le véhicule et immédiatement s'attacher avant de lancer « Je suis jamais capable toute seule dans l'auto ». Les bénévoles expliquent aux enfants ce qu'est le 911. S'il ne faut pas appeler là pour rien, on peut toujours le faire si on a besoin d'aide. Elles s'assurent que les élèves associent la ligne d'urgence et l'ambulance qui viendra à leur rescousse s'ils ont éventuellement à composer ces trois chiffres. Elles veillent à bâtir un lien de confiance pour qu'aucun de ces petits ne craigne de se tourner vers le corps médical. Un enfant lève la main. « Est-ce qu'on s'en va à l'hôpital pour vrai? » Quand la bénévole lui répond que non, je vous jure que c'est un air de déception qui s'affiche sur son visage. Lui, le syndrome de la blouse blanche, ce ne sera pas pour aujourd'hui. C'était « L'hôpital des nounours », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
Les foudres de mars. Un texte signé Mathieu Bellil, essayiste, publié dans la presse du 10 mars 2026. Les premières semaines de mars offrent toujours un mélange d'impatience et d'espoir. Espoir parce que les jours allongent, le soleil réchauffe la terre, l'empire de la neige recule enfin. Et impatience parce que l'hiver ne se déclarera pas vaincu sans avoir livré un dernier combat, une vague de froid ou une tempête pouvant en quelques heures annuler les progrès enregistrés. Mais le temps a fait son œuvre, et le couvert de neige finit par disparaître, dévoilant peu à peu tout ce qui avait été laissé en plan à l'automne. Ces jours-ci, le Québec me fait penser à une cour arrière où la neige qui fond révèle ce qui est resté à l'abandon et qui, soudain, reprend vie. Après 8 ans de règne caquiste, l'heure du dégel politique a sonné et les mois qui viennent, jusqu'aux élections d'octobre, s'annoncent agités. Ce qui est d'abord en jeu, c'est le bilan d'un gouvernement qui a déçu. L'histoire de la CAQ restera celle d'une spectaculaire dilapidation de capital politique causée par une série d'erreurs et de tergiversations. Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'éducation n'est pas devenue la priorité des priorités, et malgré un nouveau cycle de réformes, le réseau de la santé continue de défaillir, le pouvoir ayant une fois de plus été cédé au puissant lobby des médecins. Pire, le déficit d'entretien des infrastructures n'a cessé de grandir, alors que le gouvernement Legault avait pourtant promis de s'y attaquer. Si bien qu'à la veille d'un nouveau printemps, le Québec se retrouve exactement là où il se trouvait lors de la fondation de la CAQ, pris dans un débat entre les ennemis de toujours, souverainistes et fédéralistes, entre la promesse du pays à faire, le Parti québécois, et celle du pays à ne pas faire, le Parti libéral du Québec. L'équivalent politique du « jour de la marmotte ». Pendant que le président Trump frappe l'Iran de sa foudre, Mars, c'est bien lui, le dieu de la guerre. Ici, les prétendants au pouvoir sont forcés de s'ajuster. Guerre commerciale et guerre au Moyen-Orient, cette double instabilité sert les libéraux de Charles Millard qui incarnent, comme les troupes de Mark Carney à Ottawa, le changement dans la continuité. Mais le récent aveu de Paul Saint-Pierre Plamondon évoque désormais la possibilité que le référendum sur la souveraineté soit tenu à la fin d'un éventuel premier mandat, obligera tout le monde, à gauche comme à droite, à présenter une vision claire de ce qu'il entend faire pour remédier aux défis que vit le Québec. Il ne suffira pas de débattre du pays à faire ou à ne pas faire. Il faudra aussi parler du pays réel, lequel, c'est l'évidence, a besoin d'amour. Bien sûr, Le Parti québécois continuera de réclamer tous les pouvoirs, c'est dans l'ordre des choses. Mais en attendant, il devra expliquer ce qu'il compte faire de celui que les Québécois pourraient lui accorder. Quelle est sa vision pour l'éducation et la santé? En quoi l'actuel pacte social mérite-t-il d'être renouvelé ou repensé? Que faut-il faire pour dynamiser l'économie et diversifier ses débouchés, pour assurer l'intégration des nouveaux arrivants et l'avenir du français? Il en va de même pour les autres partis dont on attend qu'ils exposent leurs intentions, à commencer par Charles Milliard, qui ne pourra pas se contenter, comme Jean Charest à une autre époque, de revendiquer les commandes d'un éventuel camp du non. Il est clair que le Parti libéral du Québec doit sortir de Montréal et de Laval pour regagner les régions, mais avec quelle vision et quel projet concret? Jusqu'à maintenant, la formule à trois volets scandée par Milliard, nationalisme assumé, régionalisme enraciné, fédéralisme convaincu, ressemble à s'y méprendre à la quadrature du cercle, c'est-à-dire un problème impossible à résoudre. C'est au moment de trancher des questions difficiles que les contradictions seront révélées, d'autant que les intérêts de sa base électorale, composée d'une majorité de non-francophones, ne coïncident pas forcément avec ceux du Québec dans son ensemble. Pour les autres partis, rien n'est encore tout à fait joué. À la coalition Avenir Québec, on doit rêver que Christine Fréchette l'emporte et parvienne, dans les derniers mois de pouvoir, à faire assez bonne impression pour sauver les meubles. Si elle devenait chef, elle serait seulement la deuxième femme de l'histoire du Québec à occuper les fonctions de première ministre, ce qui n'est pas rien. À Québec solidaire, Ruba Gazal et Sol Zanetti font face à une tâche herculéenne, reconstruire la gauche. Mais les campagnes ont ceci de bon, qu'elles offrent un accès direct à l'électorat qui a l'occasion de se faire sa propre idée sans passer obligatoirement par le filtre des commentateurs. Enfin, si la tendance se maintient, les conservateurs d'Éric Duhaime feront une percée en misant sur un vote de protestation. La chose est entendue, ces gens sont contre. Contre le référendum, contre les vieux partis, contre la gauche et contre les élites urbaines. Mais que défendent-ils au juste? Après un long hiver, le retour des beaux jours risque de donner lieu à des bouleversements politiques. Qui sait? Peut-être un parti parviendra-t-il, entre impatience et espoir, à nous redonner envie d'y croire. Après tout, le printemps, c'est aussi la saison des amours et même du coup de foudre. Et c'est la fin de ce texte de Mathieu Bellil titré « Les foudres de mars » publié dans la presse du 10 mars 2026.
L'enfance réelle, l'enfance virtuelle. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 mars 2026 dans la presse. Dans « Génération anxieuse » de Jonathan Haidt, on lit que depuis l'aube de l'humanité, les enfants socialisent en jouant dans le réel. Avec d'autres enfants, sans trop de supervision. C'est important pour tous les mammifères, ce que nous sommes. Au début des années 1990, les adultes ont commencé à organiser l'enfance de leurs rejetons en les confinant de plus en plus à la maison et dans des activités supervisées, du sport aux cours de violon en passant par les cours de mandarin. Résultat, de moins en moins de jeux libres, essentiels pour apprendre à socialiser avec d'autres humains. Puis, Dans la deuxième moitié des années 2000, le téléphone intelligent a commencé à dominer nos vies et celles de nos enfants. Au début des années 2010, les enfants, au sens large, incluant les ados, ont commencé à plonger dans les réseaux sociaux. Leur enfance est devenue de plus en plus virtuelle. Et 15 ans plus tard, les chercheurs décortiquent les données et découvrent avec effroi que cette vie de plus en plus virtuelle a eu des effets épouvantables sur eux. Les troubles de santé mentale et l'anxiété en particulier se sont mis à monter en flèche, en particulier chez les adolescentes. Jonathan Haidt l'explique dans son livre publié en mars 2024. Dès qu'ils ont commencé à emporter leur téléphone intelligent à l'école et à surfer régulièrement sur les réseaux sociaux, y compris entre les classes, les adolescents semblent avoir développé des difficultés relationnelles. Être face à l'autre, en 3D, c'est se frotter à la réalité complexe de l'interaction humaine. Faire attention à ses mots, à ses gestes, en fonction de la réaction de l'autre. Négocier, coopérer, se réguler. Tout ça est particulièrement important dans l'enfance, quand les cerveaux se développent. Si vous remplacez l'essentiel des heures auparavant passées avec d'autres petits humains par du temps passé devant les écrans, vous bousillez l'aptitude à la socialisation. Une enfance et une adolescence en ligne, c'est aussi une jeunesse passée constamment sous le regard d'autrui, ce qui pousse à une performance de tous les instants. Haidt, encore. L'apprentissage social suppose l'art de l'amitié, qui est incarné. Être ami, c'est faire des choses ensemble. Enfant, on se touche, on s'étreint et on se bagarre. Les faux pas sont sans gravité et peuvent être rectifiés en temps réel. Cette rectification s'accompagne de signaux corporels clairs, tels qu'une excuse verbale assortie d'une expression de contrition. En revanche, constate-t-il, les relations sociales virtuelles créent des périls jusqu'ici inédits dans l'enfance humaine. En ligne, celles-ci se désincarnent, deviennent asynchrones et perdent parfois toute substance. Même de petites maladresses risquent de coûter cher dans un monde où les contenus numériques peuvent devenir viraux, subsister à jamais et être visibles par tous. Bref, au lieu de gagner en maîtrise sociale, un enfant qui grandit dans le virtuel en viendra à redouter de futures interactions dans le réel. Je sais que j'ai l'air d'un vieux croulant qui commence à dire que c'était mieux dans le temps, avec cette chronique que vous lisez. Je me suis toujours méfiée de cette posture. C'est presque toujours faux. Les choses n'allaient pas forcément mieux dans le bon vieux temps, dans à peu près tous les plans de la vie humaine. Mais les données montrent la fragilité des enfants de la génération téléphone. Et ces données ont commencé à être inquiétantes à partir du moment où les mineurs ont commencé à plonger dans les écrans. Et les répercussions sont terriblement délétères pour les enfants et pour la société. Pour les enfants, la génération Z, 1996-2010, a été le premier cobaye d'une enfance désormais basée sur le numérique. Cette génération a été particulièrement affligée par des problèmes de santé mentale, comme la dépression et l'anxiété, qui ne sévissaient pas avec la même acuité chez les milléniaux Y, 1981-1996. Pour la société, il faut prendre soin de jeunes plus fragiles, moins résistants à la contrariété et aux difficultés de la vie qui, comme chacun le sait, ne se déroulent pas que dans le virtuel. L'enfance téléphone, qui a émergé des années 2010, a créé une génération plus craintive, qui voit des dangers partout, même là où il n'y en a pas forcément. Et elle combat ce réel effrayant avec des mots boucliers, toxiques, problématiques, traumatisants. Je cite Jonathan Haidt une dernière fois. L'exubérance des milléniaux en mode découverte céda la place, sur les campus universitaires, à une génération Z plus anxieuse, en mode défensif. Des livres, des déclarations, des conférenciers et des idées peu, voire aucunement controversées en 2010 furent qualifiés de nuisibles, dangereux, voire traumatisants dès 2015. Je termine sur une note d'espoir. Mars 2026 a été terriblement mauvais pour les géants de la techno qui dominent l'économie de l'attention. Dans deux causes distinctes, au Nouveau-Mexique et en Californie, les Meta, Facebook, Instagram et Alphabet, YouTube, de ce monde ont été condamnés par des jurys civils pour avoir conçu des produits dangereux pour les adolescents. On a appris dans ces procès que non seulement les géants de la tech savent que leurs plateformes sont nocives pour les jeunes, mais aussi que ça fait partie du modèle d'affaires. Ces deux décisions judiciaires vont inspirer d'autres poursuites pour négligence contre Big Tech de la part d'individus lésés, de leurs parents et d'État. Et peut-être que ce sera le début de la fin de l'enfance basée sur une relation de dépendance aux écrans. On peut toujours rêver. C'était « L'enfance réelle, l'enfance virtuelle », un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 mars 2026 dans la presse.
Des tours comptant jusqu'à 34 étages dans le futur quartier Molson. Un texte de Marco Forti paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? L'arrondissement de Ville-Marie autorise des dérogations pour permettre à 11 tours de dépasser les hauteurs habituelles, notamment la tour Molson à 120 mètres. Le projet ajoutera 1000 logements, portant le total à 4200 unités et incluant commerces, bureaux et écoles primaires. L'incertitude sur la part de logements sociaux perdure, malgré l'engagement de 20% de logements sociaux et abordables par les promoteurs. Le quartier en cours d'aménagement autour de l'ancienne brasserie Molson, à deux pas du pont Jacques-Cartier, est appelé à gagner en hauteur. L'arrondissement de Ville-Marie ouvre la voie à des dérogations aux règles d'urbanisme pour que 11 édifices du secteur dépassent les hauteurs autorisées, y compris l'emblématique tour Molson, qui culminera à 120 mètres, soit environ 34 étages, selon les promoteurs du projet. La hauteur maximale des autres tours du secteur serait de 27 étages, toujours selon les promoteurs. Cette hausse importante de la densité du futur quartier permettrait la construction de 1000 logements de plus que prévu, selon la Ville de Montréal. Le projet passerait de 3200 à 4200 logements. Cet ambitieux chantier est destiné à transformer l'ancien quartier de la brasserie Molson, qui borde le fleuve sur environ 500 mètres, entre le pont Jacques-Cartier et le Vieux-Montréal. Des logements, des commerces, des bureaux, un hôtel et des parcs publics viendront remplacer les bâtiments industriels. Un espace est aussi prévu pour une école primaire. Cette mise à jour du futur quartier s'inscrit dans les nouveaux paramètres du plan d'urbanisme et de mobilité qui permet des hauteurs et des densités plus importantes dans le secteur Molson, secteur d'intensification élevée. La proposition vise à rehausser la plupart des tours, indique le sommaire décisionnel de l'arrondissement de Ville-Marie, adopté le mardi 10 mars 2026. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada mise en partie sur des tours en hauteur pour soulager la crise de l'habitation. Il s'agit d'une des façons les plus évidentes d'augmenter le nombre de logements, compte tenu du peu de terrain disponible à Montréal. Flou autour des logements sociaux. La part de logements sociaux reste incertaine dans le futur quartier Molson. Les promoteurs du projet, le groupe Montoni et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, se sont engagés en décembre 2024 à inclure 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements destinés aux familles, comme le prévoyait le règlement pour une métropole mixte, aussi appelé 20-20-20, créé par l'ancienne mairesse Valérie Plante. L'administration Martinez-Ferrada a toutefois entrepris de modifier ce règlement pour le remplacer par une cible de 20% de logements hors marché, qui comprend des coopératives, des logements subventionnés et une série d'autres habitations décrites comme abordables. Mais qui n'ont d'abordable que le nom, selon les comités logements. Nous sommes en conversation avec le partenaire Montoni et le fonds FTQ pour qu'il respecte les engagements qu'il a pris avec nous, qu'il a pris avec la ville, a dit Soraya Martinez-Ferrada lors du conseil d'arrondissement de Ville-Marie. La mairesse de Montréal est aussi mairesse de cet arrondissement qui englobe le centre-ville. Question sans réponse. quelle part de logements sociaux les promoteurs prévoient-ils de construire dans le quartier Molson? Le Fonds immobilier de solidarité FTQ cherche à appuyer la construction rapide du plus grand nombre de logements abordables possible. Dans le cadre du quartier Molson et aux côtés de Montoni, nous poursuivons les échanges avec l'arrondissement sur l'inclusion de logements abordables dans le projet, indique Patrick McQuilkin, porte-parole du Fonds de solidarité FTQ. Tant que ces discussions se poursuivent, on ne peut pas se prononcer davantage sur cette question, précise-t-il. Le groupe Montoni refuse aussi de confirmer son engagement de respecter le règlement 2020-20. Notre volonté a toujours été d'offrir une diversité de logements répondant aux besoins de tout type de ménage au sein du quartier Molson. Cette volonté existait avant l'entrée en vigueur du règlement pour une métropole mixte, RMM, et demeure pleinement au cœur du projet. Nous travaillons de pair avec la Ville de Montréal à cet effet, a fait savoir Frédérique Truchon-Gagnon, directrice affaires publiques et communication chez Montoni. Un contrat brisé. Éric Michaud, coordonnateur du comité logement Ville-Marie, s'indigne du recul apparent de la Ville et des promoteurs du quartier Molson. La promesse de plus de 800 logements sociaux s'évapore pour les locataires du Centre-Sud, a-t-il lancé lors du conseil d'arrondissement. L'assouplissement du RMM par la nouvelle administration élimine l'obligation d'inclure des logements sociaux, généralement subventionnés par l'État et répondant aux besoins des ménages à faible revenu, selon lui. Éric Michaud a reproché à la mairesse d'avoir brisé le contrat social, liant la ville et les promoteurs. Soraya Martinez-Ferrada s'en est défendue. Le contrat social et l'engagement qu'on a pris, c'est d'arriver à avoir 20% de logements sociaux et abordables à Montréal. Des logements hors marché, hors de la spéculation, a dit la mairesse. Le RMM de Projet Montréal n'a pas fonctionné, a-t-elle répété. La majorité des promoteurs ont préféré contribuer à un fonds plutôt que d'inclure des logements sociaux, abordables ou familiaux, dans leur développement immobilier. La nouvelle administration compte plutôt proposer des incitatifs financiers aux promoteurs et aux OBNL, dans l'espoir de stimuler l'offre de tous les types de logements hors marché. C'était « Des tours comptant jusqu'à 34 étages dans le futur quartier Molson », un texte de Marco Fortier paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir.